Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu avec ce soir Yves Maître qui est là. Salut Yves.
Bonsoir.
Heureux de te retrouver mon cher Yves. Vous le savez, Yves Maître qui a travaillé chez HTC, qui est un spécialiste de la tech, de la VR, hein, puisque quand tu étais chez HTC, évidemment, c'était ton job. Et tu es aussi Operating Partner Jolt Capital. À tes côtés, c'est Frédéric Bianchi. Salut Fred.
Bonsoir.
Journaliste à BFM Business et la famille aussi avec Fred Simotel. Salut
bonsoir,
Fred.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Évidemment, journaliste à l'excellente rédaction de BFM Business. Plein de sujets passionnants ce soir. On va parler d'NVIDIA aussi dans quelques minutes. Mais pour débuter donc, OVH Cloud. Alors, il y aura deux temps forts OVH. On va débriefer sur cette annonce de Mosaïque et de ce partenariat avec Candela. Et puis tout à l'heure, je recevrai donc, je le disais, Michel Paulin, qui est le directeur général d'OVH Cloud, et Nicolo Somachi, qui est le cofondateur et directeur général de Candela, pour cette inauguration qui s'est faite en grande pompe, hein, avec des membres du gouvernement, du côté de Lille, je crois. Près de Lille, hein, c'est
à Croix.
À Croix, exactement. Voilà, donc nos deux invités tout à l'heure. Mais messieurs, donc voilà, c'est plutôt positif. Le fait que voilà, OVH Cloud s'associe avec une autre pépite de la tech française qui est Candela. Yves, est-ce que tu t'intéresses un petit peu au quantique, qui est un sujet quand même assez costaud, hein, il faut quand même l'avouer.
J'espère qu'il va nous dire oui.
Alors, je pose cette question, mais je le sais parce que tout à l'heure, il m'a dit que ça m'intéresse. Donc,
d'accord.
C'est pour ça, tu vois. Je prends pas trop de risques quand même, malgré tout. Là, il pourrait m'avoir en me disant non, François, ça m'intéresse pas du tout. Là, ça serait une petite blague sympathique, le 1er avril, pourquoi pas. Mais plus sérieusement, est-ce que c'est un sujet que tu suis? Et est-ce que c'est, à ton avis, cette révolution, on va dire, de la puissance de calcul que certains imaginent dans quelques années?
Alors, d'abord, est-ce que ça m'intéresse? Ça m'intéresse beaucoup. Tu sais que ma formation, moi j'étais ingénieur en physique nucléaire. Donc quand tu fais la physique nucléaire, tu t'intéresses à l'infiniment petit. Et l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique et la physique quantique. Donc forcément, et on est obligé.
Fractales.
Ça c'est encore plus des mathématiques, c'est un peu autre chose. Mais bon, donc alors, oui, c'est une révolution, mais peut-être. Pour expliquer, pour un peu démystifier la chose, parce que quand on parle d'ordinateur quantique, c'est un peu compliqué, parce que c'est pas tout à fait. Alors, peut-être qu'il faut expliquer les choses, on va essayer d'expliquer le plus simplement possible. Dans un ordinateur, on a des bits. Un bit, il a deux valeurs, soit il est à 0, soit il est à 1. Okay. Et
c'est un peu le fondement de l'informatique.
C'est le fondement de l'informatique.
C'est le langage de l'informatique.
C'est le digital.
C'est ça.
Ce qu'on appelle le digital.
Oui.
Donc, soit l'objet est dans un état 0, soyez dans un état 1, ok. Et un chipset, c'est, on le verra tout à l'heure sur Nvidia, 200 milliards de transistors. Et un transistor, c'est comme un interrupteur. Enfin, c'est pas tout à fait ça, pour faire simple. Soit il est ouvert et le courant il passe pas, c'est 0. Soit il est fermé, le courant il passe et c'est 1. Donc tout est basé sur des 0 et des 1. Dans le quantique, c'est autre chose. C'est basé sur une autre logique, un autre paradigme qui est de dire, on peut être soit 0, soit 1, soit dans des états superposés. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la chose dont on parle souvent dans le monde quantique, c'est de dire, c'est la dualité onde particule. Okay. Donc, quand on regarde un grain de lumière, okay, c'est soit une onde, hein, on a une onde, soit c'est une bille.
On a un vrai cours de physique quantique.
Ah oui, non, mais là.
Mais en fait, ça peut être les deux en même temps.
Il ne te manque plus que le tableau Velleda, le petit feutre.
Et, j'en suis
et on y va, et nous, on serait là en train de prendre des notes.
Non, mais déjà, j'ai le nom de famille en m'appelant maître.
Forcément. C'est vrai.
Bon. Et si tu veux, aujourd'hui, avec un ordinateur normal, on fait des calculs avec des 0 et des 1. Avec un ordinateur quantique, on a des états intermédiaires. Donc, on fait beaucoup plus de calculs parce que l'objet sur lequel on calcule peut avoir plusieurs états. Donc on multiplie les puissances de calcul de manière exponentielle. Donc c'est ça la grande différence. Par contre, on ne peut pas faire tous les calculs. Donc autant un ordinateur, c'est plus général, on fait des calculs sur à peu près tout,
d'accord,
dont l'intelligence artificielle. Mmh. Sur du quantique, c'est vraiment sur des algorithmes de grande complexité et dans certains domaines. Donc
qu'en fait, le quantique ne va pas révolutionner l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les deux cohabiteront.
Absolument. Oui,
pour
absolument.
Certaines tâches, oui, il y aura toujours les 0 et les 1.
Absolument.
Je peux t'expliquer. Et
absolument.
Puis pour certains calculs, on va dire hautement complexes, etc., là, le quantique prendra le relais.
Absolument.
Et là, la révolution, c'est que certains calculs qu'on n'ose même pas imaginer aujourd'hui, de par leur complexité, pourront être envisagés Absolument. Grâce au quantique, c'est ça, hein ?
Absolument. Mais ce n'est pas du tout les mêmes types de programmation. C'est-à-dire que on me disait, alors moi j'en ai pas fait, donc je vais probablement prendre quelques cours pour essayer de comprendre moi-même, le faire moi-même, mais on me disait, il faut que tu désapprennes tout ce que tu as pu apprendre sur la logique binaire, sur le digital, pour reprogrammer sur des ordinateurs avec une logique analogique. Donc c'est vraiment un
on va
autre...
pas y aller tout de suite, nous, hein, non, parce que vous en
même,
pensez
même, parce que même dans les télécommunications tu peux avoir deux particules qui peuvent avoir le même état et qui sont pourtant séparées. Et pourtant, l'information passe. Enfin, il y a tout un ensemble du système. Et c'est vrai qu'on retrouve ça, le chiffrement, on va le retrouver dans la sécurité.
C'est-à-dire qu'elles sont séparées, excuse-moi, c'est intéressant ce que tu dis. Elles sont séparées, mais malgré tout, l'information passe.
Oui.
Et elles peuvent être séparées.
Une sorte de télépathie, on va dire.
Voilà, elles peuvent être séparées de distance incroyable. Oui, oui. C'est presque mystique. Il y a un côté un peu étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe.
Philosophiquement, c'est
étonnant. Hein.
Ce qu'il faut savoir, c'est à la fois de l'informatique, c'est à la fois de la mécanique, c'est de la physique, c'est de la chimie. On est au zéro absolu, hein. C'est moins 273 degrés. Donc voilà, ce n'est pas n'importe quel ordinateur. Et puis derrière, on va dire pour simplifier un peu, on a le chiffrage sur la sécurité, donc le cryptage, enfin le chiffrement des données. On a autre chose, ça peut être le calcul. La simulation informatique, voilà, pour dire tiens, on va créer tel type de médicament, qu'est-ce qui pourrait avoir comme effet sur tel type de personne avec tel type d'ADN et tout ça. Et puis on a le dernier qui est l'optimisation combinatoire. C'est on va trouver le meilleur chemin pour un livreur pour arriver au bon endroit, c'est le meilleur, la meilleure fluidité sur un avion. Enfin voilà, c'est un peu les trois principaux calculs. Et derrière, voilà, c'est des machines qui coûtent cher. On n'y est pas encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on parle d'ordinateur quantique, mais on n'y est pas. On a des choses qui simulent un peu.
Le mosaïque qui a été inauguré dans les locaux d'OVH, c'est pas tout à fait un ordinateur quantique.
On posera la question tout à l'heure
à Michel Paulin.
Mais
faut
pas rentrer dans les détails, mais après, il y a deux voies qui sont prises entre Candé et Pascal, par exemple, ils n'ont pas pris la même voie pour développer leurs ordinateurs quantiques. Hein. Il y a différentes technologies aussi dans ce domaine. Donc là, Candela, Pascal en prend une autre. Mais voilà, et on a la chance en France d'être plutôt fort dans ce domaine, de pouvoir se positionner dessus. Mm-hmm. Il y a un plan quantique qui est mené.
Le plan France 2030.
Voilà,
aussi.
Exactement. Il y a quelques milliards de là. Et ce qu'il faut, et les entreprises commencent à y aller. On sait qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises investissent minimum 1-2 millions d'euros, de dollars dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui, toutes les études le disent, hein, il faut aller vers le quantique dans quelques domaines que l'on soit, dans le luxe, dans la chimie, il faut commencer à regarder ça, parce que celles qui vont maintenant auront un avantage concurrentiel plus tard.
Alors évidemment, ce partenariat entre Candela et OVH, Fred, c'est bien, parce que évidemment, en termes de souveraineté technologique, on envoie un bon signal. Ça sera réservé, je pense, à la recherche au départ, hein, parce que, bien sûr, là, on a une bête de compétition, il faut savoir la faire fonctionner, hein, cet appareil-là.
Alors, c'est justement ça, l'objet de l'accord avec OVH, Cloud, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Donc, les services, la puissance de calcul va être fournie à des utilisateurs qui pourront tester et éventuellement développer des applications. Alors, on verra avec Michel Paulin tout à l'heure, ça, pour savoir si c'est un vrai ordinateur quantique. Ça reste un ordinateur quantique très basique. Hein. On sera sur 12 qubits. Imaginons un ordinateur qui aurait 12 bits aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment très petit.
Principalement, ça va être le chiffrement.
Ça va être du chiffrement et l'ouverture aussi donc sur le cloud d'OVH pour essayer de développer des applications. On parle d'une technologie, du deep tech là quand même. On est vraiment à la préhistoire du quantique. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui, sur le plan expérimental, montent à 1000 qubits. Donc là, on a dit 12. On peut monter à 1000, voire au-delà. Hein. On parle de solutions, je crois que chez Pascal aussi, l'autre pépite française, on aurait développé des machines jusqu'à 1000 qubits. Mais la difficulté, c'est qu'au plus on a de grandes puissances de calcul, au plus il y a aussi beaucoup d'erreurs à corriger, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et ça, corriger les erreurs, ça met énormément de temps. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui n'est pas encore maîtrisée. Mais on peut se réjouir que la France a trois pépites, hein, parce qu'on a, parlé
Candela, Pascal.
Candela, on a Pascal, on a aussi Alice et Bob, hein, qui une start-up française sur le quantique. On est peut-être aujourd'hui en Europe le pays le plus avancé. Alors, il y a les Américains aussi avec IBM qui sont loin devant, mais c'est vrai que le plan quantique, je crois qu'il est doté d'une enveloppe de plus d'un milliard d'euros sur 5 ans. La France met le paquet là-dessus. Alors, ça reste avec un point d'interrogation. Est-ce qu'un jour, l'ordinateur quantique verra vraiment le jour, hein, parce que là, aujourd'hui, on parle vraiment de proto-machines. Est-ce que ça verra le jour? On ne sait pas, en tout cas, la France. Alors,
on parle de 2035-2040, quoi, pour avoir vraiment les premiers effets.
Juste, Yves, comment sont les Américains là-dessus? Parce que là, on parle de notre innovation franco-française, mais il faut savoir que Google investit énormément aussi dans le quantique, notamment. Et j'imagine que tous les autres aussi.
L'Asie, on ne sait pas trop.
L'Asie, d'accord.
Les États-Unis et l'Europe, on connaît. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le cloud, on est en retard. On a été en retard. Donc après, on a des sociétés comme OVH qui ont essayé de rattraper le retard, mais face à des AWS, Azure, on a eu un train de retard. Sur les AI, on est à jour. Hein, on a Mistral qui challenge. On est à jour. On est plutôt, dans le monde entier, on est reconnu comme étant... on est monté dans le train au bon moment.
On est au niveau d'OpenAI.
Ah, on est pas loin, on est à jour. C'est quelques mois.
D'accord.
Allez, c'est 6 mois, c'est 8 mois, mais c'est rien. C'est rien. 6 mois, c'est rien. Okay. Dans le quantique, avec les Américains, on est en avance. Et je dirais même, par rapport aux Américains, on est en avance. Et ça, c'est intéressant, parce qu'une société comme OVH, elle met cet ordinateur quantique, qui est un des premiers ordinateurs industriels quantiques. C'est vraiment un des premiers. Certes, il est tout petit, mais c'est un des premiers ordinateurs qu'on peut acheter. Alors, ça coûte des fortunes, donc on peut pas l'acheter pour soi. Mais
je sais pas ce qu'on en ferait, surtout.
1 million d'euros.
Mais on apprend à programmer. On apprend à programmer. On apprend à faire du logiciel. On apprend à s'en servir. Parce que c'est un tel changement, il va falloir des années pour que ça sorte des laboratoires. Je parle pas uniquement l'ordinateur, mais qu'on sache le programmer, qu'on sache l'utiliser. Il va falloir des années.
Est-ce que c'est ça
qui est intéressant, c'est que quand ça va exploser, on aura l'écosystème qui va pouvoir continuer cette avance qu'on a.
Est-ce qu'on peut faire fausse route? Est-ce qu'on peut se dire dans quelques temps que finalement, toute cette recherche, tous les espoirs qu'on misait sur cette informatique quantique n'est pas réalisable? Est-ce qu'on peut aller vers une impasse?
Écoute, a priori, je pense pas. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même...
Dans le domaine de la simulation, c'est pas possible.
Enfin, il y a un consensus pour dire que...
Mais il y a des voix discordantes quand même. Il y a des gens comme Alain Aspect, qui est prix Nobel qui fait partie d'ailleurs de Pascal. Hein, Pascal, je crois qu'il est
conseillé. Mais c'est juste parce qu'ils ont pris des voix différentes. Ils n'ont pas pris la même voix que Candela, donc
mais ça veut dire qu'il y a deux voix différentes. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, en théorie?
Alors là, peut-être. Hein, on aura.
Donc ça veut dire que peut-être la voix de Candela n'est pas la bonne, ou peut-être celle de Pascal n'est pas la bonne.
Mais c'est comme les processeurs IA aujourd'hui sont développés d'une certaine façon. Il y a des choix qui sont faits. Ben peut-être que quelqu'un va trouver un jour la martingale pour les développer encore moins.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'échec est possible dans.
Mais l'échec est toujours possible. Et heureusement que l'échec est possible, parce que d'abord, si on
ouais, mais enfin, si on pouvait ne pas avoir d'échec,
c'est
bien.
Mais si, ben, regarde, quand tu apprends à marcher, tu tombes. Ok, oui. Moi, j'ai jamais vu personne qui marchait en lisant un PowerPoint. Ok, tu tombes et tu remarches. Donc, je pense que ça fait partie de la recherche. L'échec, ça fait partie de l'échec de la recherche. Et donc,
non, mais ce que je veux dire par là, ça serait bien que
mais
la
l'échec,
France.
L'échec, à mon avis, il est pas théorique, parce que théoriquement. On sait où ça va. C'est comment j'industrialise le plus rapidement possible au meilleur coût. Ça, c'est un autre challenge.
Et comment je ramène des compétences? Alors, on a aujourd'hui, on a le pôle de Saclay, hein, de recherche. On a déjà des divisions de quantique à Polytechnique, comme Paris,
au CEA.
Au CEA, on a toutes ces écoles. On a un fonds aussi, faut pas l'oublier, Cantonation.
Plein de startups.
Qui est le premier fonds, je pense, européen aujourd'hui dans ce domaine. Et voilà, nous, on a décidé de se projeter plus à 2035 que sur l'IA, mais c'est pas plus mal. Et je pense que le pari que fait OVH, alors, oui, il y a un pari technologique, hein, mais c'est pas le premier qu'a fait Octave Klaba ni Michel Collin.
Évidemment, juste petite question, il est pertinent de mettre toute cette puissance de calcul dans le cloud, forcément. Enfin, je veux dire, ça a du sens, parce que c'est le partenariat justement entre Candela et OVH Cloud.
Bah, le but de le mettre dans le cloud aussi, c'est de le proposer à d'autres. C'est le proposer à des entreprises, c'est le proposer... Ils le disent aussi à des étudiants, hein, des étudiants qui arriveront avec des projets ou des startups, évidemment.
Il faut l'ouvrir. Il faut créer cet écosystème. Si on garde quelque chose pour soi, on ne crée pas un écosystème. Il faut l'ouvrir.
Dernière question que je posais tout à l'heure à Michel Paulin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un coup de com', ce partenariat Candela OVH Cloud, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, ça va déboucher sur quelque chose? Parce qu'on pourrait très bien se dire aussi que...
C'est pas un coup de com', ils ont quand même mis de l'argent,
oui,
ils
mais
parient, ils ont des investisseurs derrière.
C'est très bien qu'OVH a eu des moments difficiles.
Oui, mais ils ont des... Alors, c'est peut-être un... On pourrait voir ça un coup de com' pour dire, regardez, d'accord, la bataille du cloud, enfin, telle qu'on le conçoit, comme avec les hyperscalers, les AWS... Voilà, là, elle est plutôt gagnée par eux. Ben nous, on va utiliser notre cloud, on s'oriente vers d'autres voies, et notamment le quantique. Je pense que c'est plus vers là qu'il faut parler. Après un coup de com', il y a quand même de l'investissement. Il y a un pari technologique qui est fait, un pari financier aussi. Il y a quand même des investisseurs derrière. Ils ont dit oui parce qu'ils y croient. Mais donc
après le montant de la transaction est secrète, non? On a des informations.
L'engin en question, je crois que c'est 1 million. Même si c'est un coup de com', François, c'est quand même un bon coup de com'.
Ah non, mais bien sûr.
Un coup de projecteur sur la recherche, un coup de projecteur sur ces technologies qui sont assez obscures. Et là, c'est vrai qu'avec les déplacements de deux ministres, on en parle. Ça met la technologie entre les mains, comme le disait Frédéric, d'étudiants, d'entreprises, tout ça. Bon, bah, la com', c'est pas toujours négatif. Et là, si c'est que de la com', c'est de la com' plutôt positive.
Regarde OpenAI, hein. Enfin, c'est beaucoup de techno, mais beaucoup de com' aussi. Hein.
Parce que c'est ce que j'allais dire dans le domaine des coups de com', les Américains. C'est les mêmes.
Il faut faire des coups de com' avec ces technologies.
Oui, mais excusez-moi. OpenAI, compliqué de comparer ChatGPT, etc. C'est compliqué de comparer cette association, enfin ce partenariat entre OVH et Candela et OpenAI, parce que OpenAI,
il y a une application directement en termes de com'. Voilà.
Oui, en termes de com', parce que le jour où on a vu ChatGPT, enfin, on s'en est pris plein la figure, et je pense qu'il va être compliqué peut-être pour OVH et pour Candela de nous montrer, enfin, de montrer au grand public les effets. On va dire direct de cette association.
Mais malheureusement, on les verra jamais. Le quantique, c'est des applications B2B. Ouais. C'est par exemple, aujourd'hui, je crois qu'un ordinateur n'est pas capable d'optimiser un trajet de livreur qui a plus de 10 arrêts à faire. Au-delà de 10, il n'y arrive plus.
Ça, c'est l'optimisation combinatoire.
Avec le quantique, il pourra optimiser les trajets, 10, 20, 30 arrêts. Voilà, ça
explose. En fait, il arrive à exploser les probabilités, les calculer.
Si tu résumes, tu imagines, tu as une table en bois avec un labyrinthe, et avec un ordinateur traditionnel, tu as ta bille, tu vas aller à droite, à gauche, pour essayer de la faire sortir du labyrinthe. Mmh. Là, l'ordinateur quantique, il a toutes les solutions, tous les tableaux en bois, ils sont devant toi. Tu lances ta bille au même moment dans tous les trucs, et à un moment, elle sort parce qu'il y en a un qui est juste. Donc, c'est un peu ça. Donc, on résout le calcul tout de suite.
Mais c'est vrai que le grand public ne verra pas des applications. C'est pas un ordinateur qui va améliorer les graphismes de GTA 6, par exemple.
Mais est-ce que ça peut bouleverser, par exemple, la puissance de l'intelligence artificielle générative? On parle beaucoup de puissance de calcul. On va parler d'NVIDIA qui a annoncé une nouvelle puce. Est-ce que ça peut bouleverser
pour amener
l'IA?
De la data, je pense, autour de la data. Moi, je vois surtout ça dans le domaine de la chiffrement, la sécurité, l'optimisation combinatoire.
Je pense que c'est vraiment dans d'autres domaines.
La simulation.
Pas de la puissance brute de calcul qui nous...
Ça ne remplace pas l'informatique. Hein. Okay. C'est pas une nouvelle informatique. Hein,
je vais être un peu méchant, parce que les ingénieurs en physique quantique disent l'AI... C'est quand même du calcul de bourrin, quoi. C'est beaucoup de calcul, pas beaucoup de finesse. Ça, c'est pas gentil de dire ça.
Non, c'est pas gentil.
Les gens de la quantique disent non, nous, il y a beaucoup de finesse, c'est beaucoup moins général,
mais pas beaucoup
c'est
de
plus spécialisé, mais. Et pas beaucoup de calcul pour le moment, mais on est dans un autre domaine, et je pense que ça va révolutionner des choses, par exemple dans la distribution de l'énergie, par exemple dans la logistique, par exemple dans des calculs d'aéronautique, etc. Oui, là, ça va changer les choses. Pour notre vie de tous les jours, de faire la cuisine, probablement pas.
Et puis un dernier mot, hein, OVH et Candela, c'est pas une structure publique qui est vouée à faire de la recherche pour la recherche et faire travailler des étudiants, c'est super. Non, le but c'est d'aller voir des entreprises et de leur dire,
les
entreprises de livraison, les entreprises de qui vont optimiser leur parcours de d'avion, de tu sais les calculs que l'on peut faire aujourd'hui pour optimiser les routes des, enfin voilà, pour optimiser ce que l'on vient de dire dans l'optimisation combinatoire. Le chiffrement, la sécurité, c'est aller voir toutes ces entreprises et leur dire, venez chez nous, venez tester, on est là. Et puis voilà, c'est une façon d'attirer ses clients sur un autre domaine, dire, gardez vos autres choses si vous voulez chez AWS et Google Cloud, mais voilà, nous on est là sur ce domaine.
Il va falloir, j'imagine, avec ce nouvel outil, créer de nouveaux métiers aussi, non?
Ah oui, il va y avoir.
On est d'accord.
Il va falloir de nombreux ingénieurs aussi.
C'est une belle transition. C'est une belle transition que j'essaye de mettre en place.
La passe décisive, comme on dirait chez nos copains des RMC.
Non, mais sérieusement, parce que c'est vrai que, vous le savez, la France manque d'ingénieurs aujourd'hui. Et selon le Syntec Ingénierie, nos entreprises vont avoir besoin de 80 000 personnes d'ici à 2030. 80 000. 2030, c'est dans un peu plus de 5 ans. Hein. Problème, alerte l'organisation professionnelle, donc il va nous en manquer plusieurs dizaines de milliers. Et Jean-Baptiste Huet nous a fait un petit reportage qu'on écoute. Et après, évidemment, on va commenter tout cela.
Mais où sont les ingénieurs? Le Syntec Ingénierie alerte, 80 000 nouveaux emplois sont à pourvoir d'ici 2030, seulement, faute de professionnels formés, 20 000 postes sont susceptibles de rester vacants. Ceci au moment même où des secteurs comme la décarbonation industrielle et l'intelligence artificielle sont en pleine expansion. Hydrogène, nucléaire, algorithmes, cybersécurité, en cause un vivier d'étudiants insuffisant et une offre de formation incomplète. Une pénurie de talents, explique le Syntec, qui pourrait représenter pour le seul secteur de la construction, jusqu'à 4,2 milliards d'euros de manque à gagner. Alors, quelle piste pour s'en sortir? Le Syntec veut davantage promouvoir les métiers d'ingénieur, en particulier au sein des établissements scolaires et surtout élargir, coûte que coûte, les viviers de recrutement. Seuls 30% des ingénieurs diplômés chaque année sont des femmes et peu sont issus de milieux défavorisés.
Voilà, des dizaines de milliers de futurs ingénieurs. Il faut susciter des vocations auprès des ados, hein, et en tout cas des jeunes qui nous écoutent. Après, ça peut être aussi une seconde carrière, hein, dans une vie professionnelle. Pourquoi pas?
On en a vu, oui.
On le disait avec le quantique, il y a plein de nouveaux métiers qui, enfin en tout cas de nouvelles manières de penser, parce que tu le disais, c'est une autre manière de penser l'informatique. Il va falloir l'enseigner aussi cette.
Et il va falloir former des enseignants.
Voilà. Et ce manque d'ingénieurs, c'est un problème. Hein.
Non mais c'est un vrai problème. En plus,
envie de dire, c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau. En plus, ingénieur, ça se conjugue plutôt au masculin, donc. En plus, on va puiser dans un réservoir qui est plutôt masculin, parce qu'on n'arrive pas non plus à attirer davantage de femmes. Alors qu'on aurait des femmes en plus, ça doublerait quand même le réservoir. Non, on a un vrai souci. J'étais à une conférence il y a quelques jours. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui disait c'était en France, hein, que 40% des jeunes, ados, pré-ados, tout ça, étaient pas déprimés, mais un peu regarder l'avenir un peu de façon morose parce que le contexte géopolitique, parce que la planète brûle, parce que les métiers, on sait même pas, on se dit, je vais apprendre un métier, mais.
Oui, dans six mois, il est peut-être obsolète.
On voit l'IA arriver on entend dire les robots vont nous remplacer. Enfin, il y a un côté. Et donc, du coup, cette personne estimait que ça pouvait être un peu le lien avec le fait que les gens cherchent d'autres types de métiers qu'aller vers des métiers scientifiques parce que justement, là, ils ont en plus, je reviens pas sur l'effet Covid où la science a été remise en cause et tout ça. Et donc, il y a cet effet-là. Donc, il faut redonner envie à la science. On a une Miss France, je crois, qui va être ambassadrice mathématique.
Mathématicienne.
Et je pense que c'est de ça dont on va avoir besoin. C'est des ambassadeurs, ambassadrices pour donner envie, qu'on a bien dans le sport des gens qui donnent envie de faire du foot, de faire du tennis, de jouer au flipper, tiens. et voilà. Et
qu'on adore le flipper avec Fred. Ouais, c'est pour ça qu'il...
On manque aujourd'hui un peu de modèles. On avait un Cédric Villani, mais bon, il a un peu disparu de la circulation. Alors, aujourd'hui, on part à Arthur Mensch. À nouveau, on le réinvite ici pour qu'il montre un peu que c'est possible. Alors, lui, c'est un cerveau particulier, mais voilà que c'est possible.
On a Yann Le Koun, par exemple.
Ouais. Oui. Tu dis Yann Le Koun.
Je ne sais pas si les anglo-saxons ils l'appellent Le Koun, parce qu'ils ne disent pas Le Quin.
Oui, c'est amusant. On ne l'a jamais appelé comme ça, mais bon, c'est vrai.
Je voudrais quand même remettre quelques chiffres. En France, on forme 40 000 ingénieurs par an.
45 000, un peu plus.
45 000. 50 000,
allez, je t'accorde. Il en rajoute 5.
Okay. 50 000, on n'y est pas justement, c'est l'objectif du gouvernement.
Aux États-Unis, 250 000.
Et en Chine,
okay. Bon.
Après, il n'y a pas la même population.
1,2 million. En Inde, 1,5 million. Ok, alors maintenant, on fait un petit calcul. On dit 40 000, j'ai fait sur 40 000, je suis désolé, bon, on rajoutera 10%. Alors. On prend 40 000, on multiplie par 40 ans, une génération. Hein, on commence son école d'ingénieur à 20 ans, on sort en retraite à 65 ou 25 ans, 65. Enfin, donc c'est 40 ans. Ces 40 ans-là, on forme des ingénieurs pendant 40 ans. Une génération d'ingénieurs en France, c'est une année d'ingénieur qui sort en Inde. On prend la première école d'ingénieur, 1747, c'est les Ponts et Chaussées en France. 230 ans. Eh bien, en 10 ans, l'Inde a fabriqué autant d'ingénieurs que la France dans toute son histoire. Alors, on se dit, OK, on peut en faire 10 000 en plus, 20 000 en plus.
Après, c'est pas le même nombre.
Enfin, on n'est pas dans la
même... pas le même nombre d'individus aussi.
On
Il faudrait peut-être pondérer par rapport au nombre d'habitants qu'il y a.
Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est...
Oui, c'est vrai que les chiffres sont impressionnants comme
on
ça.
On n'est pas dans la même cour, ok? Alors, soit on se dit...
Il y a 1 milliard d'habitants en Inde, hein, c'est ça à peu près, non?
Plus d'un milliard,
L'Inde a dépassé la Chine, oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr, il faut former, mais ça, c'est du long terme. Et ça fait des années qu'on en parle. Moi, quand j'étais en école, on en parlait. Il y a un autre moment, il faut se dire, ben, si on veut attirer des talents, que nous, on en fait 40 000, qu'eux, ils en font en Inde 1,5 million, ben, va peut-être falloir faire de l'immigration. L'immigration de cerveaux, l'immigration d'ingénieurs dont on a besoin. Parce que il faut regarder la réalité en face.
Ce que font les États-Unis, d'ailleurs.
Ce que font les États-Unis. Quand vous allez dans la Silicon Valley, honnêtement, vous avez un paquet d'Indiens, un paquet de Chinois, enfin, Indiens, Pakistanais, etc., Chinois,
et le nombre d'Indiens qui sont à la tête de grandes entreprises américaines,
Nvidia, Sundar
Pichai, Satya Nadella,
Microsoft,
AMD, Microsoft, voilà. Bon. Eh bien, je pense qu'il va falloir se poser la question de la formation, et ça, c'est entendu, mais aussi de l'immigration de ces cerveaux, parce qu'on ne peut pas rivaliser par rapport à ces puissances qui forment 1,5 million d'ingénieurs par an. Ce n'est pas possible. Il faudrait que 10% des Français deviennent ingénieurs tous les ans. C'est pas possible.
Juste un mot pour finir sur une note positive. D'abord, il faut rappeler qu'on n'a jamais autant formé d'ingénieurs en France qu'aujourd'hui. Hein, 45 000, on n'en a jamais autant formé. Tu disais tout à l'heure 250 000 aux États-Unis, à peu près 50 000 en France. Bah, c'est à peu près le même ratio que la population. Donc finalement, les Américains ne font pas plus d'ingénieurs que les Français. Ils sont 5 fois plus, ils forment 5 fois plus d'ingénieurs. Bon, on est à peu près dans les mêmes ratios. Ensuite, ce qui est intéressant avec le Syntec, c'est justement cette campagne, parce que l'objectif du débat, c'est de dire ce que fait le Syntec Ingénierie. Donc, ils vont lancer une campagne, justement, à destination des jeunes de 13 à 18 ans pour dire les métiers de l'ingénierie sont divers, les métiers de l'ingénierie sont intéressants. Éventuellement, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est les métiers de l'ingénierie sont bien payés, parce que c'est ça aussi qui attirera les jeunes. Hein. C'est de dire qu'on fait de belles carrières dans l'ingénierie. Donc, c'est ça.
Parce que c'est 5 ans d'études. C'est 5 ans d'études, être ingénieur.
5 ans plus après, on peut faire une thèse.
Des bons salaires, c'est des perspectives de carrière en France, à l'international. Et puis, les écoles ne restent pas les bras croisés non plus. Hein. Il y a des pleins d'écoles. Je crois que à Centrale Lille, par exemple, un quart des ingénieurs formés actuellement viennent de l'étranger. Donc, on forme aussi quand même des ingénieurs étrangers. Les écoles aussi vont de plus en plus chercher des étudiants qui sont en BTS ou en IUT, donc des techniciens, pour justement leur dire bah, essayez d'aller plus loin, venez chez nous, on va vous former au métier de l'ingénierie. Donc, voilà, on reste pas les bras croisés. On forme beaucoup d'ingénieurs comme on n'en a jamais formé dans ce pays. Alors, c'est certes pas assez. Mais voilà, il y a des choses qui se font et on va y arriver.
Et il faudrait peut-être revoir aussi la partie éducation. On n'insiste pas assez sur les maths. Il faut arrêter de dire que les maths, c'est compliqué, tout ça. Les statistiques, ça a un côté... C'est une gymnastique de l'esprit. Faut arrêter de cantonner les maths. Je comprends rien en maths et tout ça.
Et notamment auprès des publics féminins. C'est vrai qu'on forme aujourd'hui un tiers d'ingénieurs qui sont des femmes. Et c'est vrai qu'il y a ce blocage tout le temps société...
Mais on peut être ingénieur en ne faisant autre chose que des maths, la biodiversité ou autre, on ne fait pas que des maths. L'ingénierie, ce n'est pas que de la physique et de l'art.
C'est pour ça que je dis qu'il faut des exemples, il faut des gens qui montrent l'exemple, il faut parler de ces métiers, il faut en parler autrement que le développeur en suite à capuche, parce que ce n'est pas que ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et puis voilà, nous on est même prêts à aller dans les écoles pour leur raconter.
Mais ça c'est clair. Voilà. C'est vrai, ça serait une bonne initiative, ça. Hein
non, mais on leur parle de tout ça. Regardez, vous allez faire des voitures.
Faire un tech and co et leur expliquer.
Vous allez partir dans l'espace, vous allez faire tout ça, vous allez travailler sur des nouvelles.
Yves aura son tableau pour le quantique. Voilà. Là, il ne faut pas que les jeunes décrochent quand tu nous expliques ça. Ça va être. Mais on va tenter.